Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Thierry de Montbrial.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, fondateur et président de l'IFRI, Institut français de relations internationales. Et vous enseignez à l'École polytechnique et au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Et vous venez de publier un essai intitulé « Il est nécessaire d'espérer pour entreprendre », paru aux éditions CIRT, qui est un recueil de différentes interventions et articles autour du thème de l'avenir de la France, de l'Europe, de leur identité et de leur développement politique et économique, et de leurs chances de progrès. Car il est beaucoup question de progrès et d'espérance dans ce livre. Revenons à ce titre qui est le renversement d'un aphorisme de Guillaume d'Orange qui disait « Je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». Et c'est donc la première proposition que vous retournez, Thierry de Montbrial. Elle ne vous plaisait pas, cette citation ?
Non, et du reste, je me suis aperçu, après avoir publié ce livre, que j'ai un de mes confrères, Yvon Gattaz, qui avait déjà fait la même observation avant, je pense qu'il est nécessaire d'espérer pour entreprendre. En revanche, il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Il y a énormément de gens, peut-être vous, sûrement moi, dans certaines circonstances de ma vie, qui ont persévéré sans avoir le sentiment de réussir. Mais si vous ne réussissez pas et que vous persévérez, vous ne pouvez le faire que si vous continuez d'avoir de l'espoir. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça marche. En général, la réussite, elle intervient par longue patience. Je crois que si véritablement on n'a aucune espérance, on n'entreprend pas aussi simplement. Donc la phrase de Guillaume le Taciturne, Guillaume d'Orange, est magnifique. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui disent qu'elle est apocryphe, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Cette phrase est magnifique parce que quand on l'entend, on ne peut que tirer son chapeau. Mais à mon avis, quand on réfléchit un tout petit peu, elle ne tient pas la route.
Alors, il est beaucoup question d'espoir, d'espérance, surtout en politique et surtout en ce moment à la veille d'une élection présidentielle, puisque nous enregistrons cette émission en février 2007. Vous vous interrogez sur l'action qui ne serait pas antinomique de la pensée, ni la connaissance de l'utilité, vous dites. Et vous dites vous-même que depuis tout jeune, vous vous interrogez sur les raisons sous-jacentes des événements, sur leur réversibilité, sur leur non-fatalité, en fait. C'est une interrogation que vous avez depuis longtemps, cette question d'espérance.
Quand on parle d'action, il y a différents niveaux. Il y a l'action au niveau strictement individuel. Je sais pas, les décisions que chacun prend dans sa vie, y compris la plus personnelle. Pas vais-je avoir un enfant, pas avoir d'enfant. Quand on est jeune, vais-je passer tel concours plutôt que tel autre, enfin, etc. La vie est remplie de décisions à prendre. Et ce qui est vrai de la vie individuelle l'est également à un niveau d'ailleurs de complexité supplémentaire au niveau de la vie collective. Alors, je me suis toujours intéressé à deux grandes sortes de questions. La première, c'est les rapports entre la pensée et l'action, qui est elle-même une question qui se décompose à plusieurs niveaux, parce que vous avez la pensée la plus abstraite et la pensée beaucoup plus appliquée. Par exemple, la stratégie, si vous voulez, sur le plan militaire comme sur le plan industriel, vous pouvez réfléchir à la stratégie, soit à un niveau extrêmement abstrait, l'essence de la stratégie, soit à un niveau très concret, c'est-à-dire quelle stratégie dois-je mettre en œuvre pour être président de la République ou quelle stratégie dois-je mettre en œuvre pour que les taux de croissance de la France passent, par exemple, de 2,5% dans les bonnes années à 4%, par exemple. Vous voyez, sur deux exemples tout à fait différents, les questions qu'on peut se poser. Alors, je me suis effectivement j'ai toujours été intéressé par les rapports entre la pensée et l'action sur ce plan-là.
Qui sont trop souvent dissociées, en fait ?
Ben, elles sont souvent dissociées, et elles sont souvent dissociées en particulier parce que je suis arrivé également depuis belle lurette à la conclusion que sur le plan humain, ce ne sont pas forcément les mêmes qualités qui interviennent. Vous avez des remarquables penseurs qui sont absolument incapables de diriger quoi que ce soit ou de mettre en œuvre quelque stratégie que ce soit, en particulier parce qu'ils n'ont pas les qualités humaines nécessaires. Et puis, à l'inverse, vous avez des hommes d'action qui sont toujours prêts à foncer dans une direction quand ils voient un chemin qui s'ouvre, mais qui sont un peu comme des chiens fous et qui n'ont pas de vision claire de ce qu'ils veulent faire, ou pire encore, qui ont une vision claire de leurs objectifs, mais qui sont incapables de mettre en relation les moyens et l'atteinte des objectifs, et qui par conséquent, non seulement ne réalisent pas les objectifs qu'ils avaient en tête, mais qui souvent même se plantent complètement, c'est-à-dire arrivent dans les directions opposées. Regardez par exemple toute l'histoire des révolutions, toute l'histoire du XXe siècle, l'histoire du communisme par exemple, illustre parfaitement cette idée-là. Alors tout ça, si vous voulez, ces rapports entre la pensée et l'action, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Si vous voulez aussi une application, un exemple très concret de ce que j'ai en tête, disons un très bon économiste, hein, au sens universitaire, académique du terme, peut-il être un très bon président de banque centrale ou un ministre des Finances? Et à l'inverse, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous pouvez être un bon ministre des Finances en ignorant totalement l'économie. Je pourrais aussi me demander avec vous si, pour être ministre des Affaires étrangères, il est nécessaire de connaître un petit peu le monde, éventuellement d'ailleurs de parler l'anglais. Donc, on peut se poser des questions de ce genre. Donc, les rapports entre la pensée et l'action. Et là, il y a un autre niveau, on va revenir là-dessus, mais il y a un autre niveau qui m'a aussi toujours intéressé, qui est les moteurs les plus intimes de l'action. Qu'est-ce qui fait marcher les hommes? Alors, évidemment, c'est une question extrêmement complexe, puisqu'on pourrait l'aborder sous l'angle de la psychanalyse, de la biologie. Je pense au fameux livre d'une vingtaine d'années, c'est la biologie des passions, Jean-Didier Vincent, enfin aujourd'hui... toute la biologie a fait des progrès considérables. On parle de l'endocrinologie, on a plus ou moins de telle ou telle hormone et on agit de façon différente. Bon, ça c'est l'aspect biologique. Bon, l'aspect purement psychologique joue évidemment un rôle essentiel dans les ressorts les plus intimes de l'action. Mais la question particulière de l'idéal, des valeurs qui peuvent vous inspirer quand vous entreprenez une action, est également une question très, très importante, ce qui rejoint effectivement le thème de l'espérance. C'est-à-dire que si beaucoup de gens, me semble-t-il, dans leur vie, une fois que les besoins les plus immédiats sont satisfaits, agissent et entreprennent justement parce qu'ils ont certaines valeurs, certains types de références qui ne sont pas forcément explicitées même à leurs yeux, disons certaines valeurs. Donc, et c'est là que la notion d'espérance intervient. Si je prétends contribuer ou essayer de contribuer à l'avènement d'un monde meilleur, eh bien, peut-être que je me fais une illusion complète. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne peux le faire que si j'y crois, voyez-vous. Donc, il y a deux niveaux qui eux-mêmes se décomposent en sous-niveaux. Le rapport entre pensée et action, d'une part, et puis la question des ressorts les plus fondamentaux de l'action.
Alors, dans un premier temps, on va justement peut-être développer cette deuxième partie, puis nous reviendrons à l'aspect humain, à l'aspect homme qui allie l'action et la pensée dans un deuxième temps, puisque vous dressez le portrait d'une dizaine de personnalités dans ce livre qui sont très intéressantes. Vous parlez d'espérance, de croyance, d'espoir. Déjà, ce sont des termes relativement à connotation religieuse. Et aussi, c'est quand même parler de progrès aujourd'hui, l'idée positif, comme ça, pour ne pas dire positiviste, et quand même pas trop dans l'air du temps.
Tout à fait. Alors, on va prendre les deux questions successivement. Alors, en ce qui concerne la connotation religieuse, je crois d'abord que les grandes religions disent, quand il s'agit de la morale, si vous voulez, ou de l'éthique, ou des grandes interrogations sur la vie, au bout du compte, elles disent toutes à peu près la même chose. J'ai moi-même fait pas mal de choses dans ma vie, ce qui m'a interdit de pousser trop loin l'étude comparée des religions, mais enfin, j'ai tout de même quelques notions sur les grandes religions de l'humanité, sur le christianisme, j'ai été élevé dedans, mais également sur les monothéismes, sur le judaïsme, sur l'islam. Je me suis beaucoup intéressé aux grandes religions asiatiques, le bouddhisme, mais aussi le taoïsme, le confucianisme, toutes religions d'ailleurs qui sont elles-mêmes discutées en tant que religion. Et je me suis intéressé aussi à d'autres formes de religions dites archaïques ou primitives. Tout ceci, encore une fois, sans aucune prétention excessive, mais suffisamment pour arriver à cette conclusion que je répète, c'est-à-dire que au bout du compte, quand il s'agit de parler des comportements fondamentaux que l'on doit à référence morale, d'où le mot devoir, avoir dans la vie, des comportements vis-à-vis des autres, le sens du bien, du mal, etc., eh bien, toutes disent à peu près les mêmes choses. Et la forme d'aboutissement de tout cela, c'est d'ailleurs ce monument de religion qu'est l'éthique sans religion, puisque à partir du XIXe siècle, et je pense même à quelqu'un comme Kant, si vous voulez, plutôt même, qui avait prétendu essayer de mettre au point des formulations des impératifs moraux en absence de toute religion, mais Kant lui-même
était déiste. Et
même, il y fait même référence, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il était sinon déiste, alors évidemment, ça, c'était un petit peu dans l'air du temps avec le siècle des Lumières, mais il y avait tout de même une sorte d'extrait, une façon d'extraire, un peu comme on extrait des produits chimiques par l'analyse chimique, on extrait des quintessences morales de différents enseignements religieux, puis ensuite on dépouille cela de l'origine religieuse et on le formule sous forme de postulat. Bon, je connais d'ailleurs un certain nombre de mes amis scientifiques, et parfois de très très grands scientifiques, qui estiment que les droits de l'homme, par exemple, ont un caractère de vérité universelle aussi fort que les lois fondamentales de la physique. Je connais certains de mes éminents confrères membres de l'Académie des sciences, et même certains prix Nobel, je ne citerai pas pour ne pas les gêner éventuellement, mais qui soutiennent cette position-là, n'est-ce pas? Les postulats de base de la morale, donc, qui sont un peu un facteur commun de toutes les grandes religions, ont une valeur universelle aussi grande que les lois de la physique. Je ne sais pas, moi, la théorie d'Einstein de la gravitation, ou auparavant la forme approximative, les lois qu'est la loi de Newton ou les principes de base de la mécanique quantique ou que sais-je. Bien.
Donc vous utilisez le terme d'espérance ou de feu sacré qui revient alors, à plusieurs fois dans le livre. Ça va au-delà d'une religion, j'imagine.
Oui, alors je crois que ce qu'il y a derrière, c'est en effet une conviction qu'il y a une sorte de morale universelle que l'on retrouve donc sous des habits divers à travers les différentes religions. Ça, c'est un point, et qui sont toutes, chacune à leur manière, tous ces messages sont porteurs d'une certaine espérance. Bon, parce que, et d'ailleurs, je dis souvent aussi à mes amis qui se prétendent totalement athées, parce que l'athéisme est quelque chose de très fort, la négation absolue de Dieu. Moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile sur le plan purement de la pure rigueur, du rationalisme pur. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'être un athée cohérent que d'être un agnostique cohérent, et même d'ailleurs un croyant cohérent, parce que l'athéisme, c'est la négation de Dieu. La croyance, c'est au moins la possibilité de Dieu, ou de différentes formes de Dieu, voyez-vous. Mais admettre une possibilité, c'est beaucoup plus facile intellectuellement que de nier une possibilité. Alors moi, ce que je dis souvent à mes amis athées, puisqu'il en existe, ou plutôt il existe des gens qui se prétendent absolument athées, je leur dis, mais à ce moment-là, si véritablement, d'ailleurs ça se trouve dans l'un des chapitres de ce livre, si véritablement vous pensez que l'homme, par exemple, sort du néant pour y retourner et qu'il n'est qu'une espèce d'éclair de conscience dans un univers froid et absurde, à ce moment-là, pourquoi ne pas se référer à ce que j'appelle des morales non euclidiennes, je veux dire des morales absurdes, du genre, au lieu de dire ne tuez pas votre prochain, de dire tuez votre prochain, volez-le, pillez-le, pillez, violez, massacrez, emparez-vous des richesses des autres, etc. Je veux dire, si véritablement nous sortons de l'absurde pour y retourner, s'il n'y a pas de sens particulier à l'homme, à l'émergence de l'homme, à ce moment-là, pourquoi est-ce que cette morale universelle dont je parlais tout à l'heure doit être érigée comme postulat? On peut parfaitement, il faut votre logique jusqu'au bout. Et pourquoi, par exemple, si vous prenez les grands principes aujourd'hui, tels que le principe de précaution ou de développement durable, vous savez, alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. En réalité, n'est-ce pas, quand vous vous référez au principe de précaution ou au développement durable, qui sont deux formulations d'à peu près de la même chose, c'est fondamentalement la même chose, il y a derrière cela un postulat implicite, qui est de préserver les générations futures. Bon. Mais si véritablement vous êtes cohérent avec vous-même en postulant l'absurdité de tout, pourquoi voudrions-nous qu'il y ait des générations futures et pourquoi voudrions-nous, en mettant la vie à des enfants, leur infliger des souffrances? À ce moment-là, on ferait peut-être mieux de leur épargner ces souffrances en leur épargnant tout simplement d'exister. Alors, je crois qu'il faut être cohérent. Et je reviens à mon idée de morale non euclidienne. À ce moment-là, pourquoi pas dire le plus rationnellement du monde, faisons sauter la planète? faisons, qu'est-ce que c'est que ce monde absurde dans lequel nous vivons? Eh bien, on va utiliser, puisque l'homme a une certaine capacité à maîtriser les sources d'énergie et domestiquer la matière, mettons à profit cette domestication pour faire sauter la planète elle-même, ce qui dispensera, ce qui empêchera de venir au monde des êtres qui ne pourraient être que malheureux et baignés dans l'absurdité. Donc, voyez-vous, je crois que l'espérance, elle est probablement beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Alors on peut dire c'est l'instinct vital, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que s'il n'y avait pas quelque part quelque chose de très puissant pour nous maintenir, si cette espérance n'existait pas finalement quasiment toujours, eh bien on serait tous là à nous suicider. Voilà, donc je crois que l'espérance est un principe universel. Ben oui, mais d'abord le désir de survie. Pourquoi survivre? Donc l'action, parce que survivre, c'est déjà agir. Et le fait de vouloir en faire bénéficier d'autres, et là on tombe dans les projets, et dans les projets qui vont au-delà de la survie la plus immédiate, c'est-à-dire comment vais-je faire pour trouver un morceau de pain ou de quoi me nourrir dans les 5 minutes qui viennent, ou de l'eau qui va m'empêcher de crever de soif si je suis dans un désert. Dès qu'on va un petit peu au-delà de ce niveau immédiat de la survie, on se pose la question de savoir comment organiser un peu mieux la vie en société, etc. Et là, on tombe immédiatement dans l'idée de progrès. Et chez certaines personnes, ça prend en effet la forme du feu sacré. Puisqu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'abbé Pierre, l'abbé Pierre, il avait sûrement ses défauts. Hein, on l'a encensé, c'est normal, mais enfin, il avait également certainement des défauts importants, puisqu'il était d'après tout un homme, mais il n'empêche qu'il avait le feu sacré, on ne peut pas dire le contraire, et donc il avait l'espérance, indépendamment du fait qu'il était prêtre.
Donc vous vous érigez contre ce que vous appelez une terrible et stérile obsession du déclin. Peut-on vraiment parler de progrès? Certes, il y a vous parlez d'espérance, c'est encore une étape supplémentaire de parler de progrès.
Tout à fait. Alors, si vous voulez, là-dessus, il y a deux niveaux. Il y a toujours beaucoup de niveaux qui s'enchevêtrent, c'est normal. Bon. Vous savez qu'en arabe, le mot djihad, qui est constamment utilisé avec une connotation le plus souvent péjorative quand on parle de djihad dans les pays occidentaux, surtout depuis 2001. Mais le mot djihad, il signifie d'abord le combat intérieur, c'est-à-dire le combat que chaque être humain mène ou doit mener vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire vis-à-vis de ses forces négatives internes. Et si vous vous intéressez au bouddhisme, par exemple, le mot djihad n'est sûrement pas employé, mais vous retrouvez la même idée, c'est-à-dire il s'agit toujours de savoir comment travailler sur soi-même pour s'améliorer, et s'améliorer étant finalement pour s'approcher davantage de l'idée qu'on peut se faire du bonheur, de rechercher en tout cas la paix, le plaisir, le bonheur. Et dans le christianisme, où il y a évidemment la notion de bonheur apparaît sous d'autres formes, mais vous avez aussi cette notion de progrès intérieur. Alors ça, c'est tout à fait important. Et au fond, chaque être humain, il se trouve tout au long de sa vie confronté à cette situation qui est la recherche d'un progrès, de son progrès personnel, de son progrès personnel. Et effectivement, je suis tout à fait convaincu, si nous avions fait cette émission quand j'avais 20 ans, ce que nous n'aurions pas fait parce que vous n'existiez pas d'une part, que Canal Académie n'existait pas non plus et que je n'étais pas académicien à cette époque. Mais je pense que je n'aurais pas formulé les choses de cette manière. Mais la vie est finalement un long parcours, tout en étant bien sûr très courte à certains égards. Et je crois que cette idée que nous avons chacun d'entre nous à progresser, c'est une idée qui me paraît absolument fondamentale. Là, elle n'est pas si banale que ça, hein, parce que si elle était si banale que ça, nous le saurions tous. Et au fond, je crois que les gens qui, quand ils arrivent, s'ils y arrivent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais s'ils arrivent à cette idée qu'une bonne partie de la vie doit avoir, hein, pour objectif de progresser soi-même, c'est une conclusion qui n'est pas sans importance. Alors, il y a le second niveau, qui est le progrès collectif. Je n'ai pas la naïveté de croire, et là, effectivement, on retomberait dans les notions de scientisme, de positivisme, etc., qui étaient tellement à la mode au XIXe siècle, qui étaient liées d'ailleurs aussi à une certaine conception ou certaines illusions sur le développement scientifique en particulier. Mais je crois cependant, sans tomber dans ces illusions, que il y a un progrès par l'intermédiaire des institutions, je crois beaucoup aux institutions, qui permettent aux hommes de vivre dans de meilleures conditions sur le plan collectif. Et ceci vaut au niveau national. Par exemple, je sais pas, prenez la justice, par exemple, vous prenez l'indépendance des différentes branches du gouvernement, l'exécutif, législatif, judiciaire, donc les principes de séparation des pouvoirs, les principes de gestion économique, de banque centrale indépendante. Moi, je suis de ceux, par exemple, sur le plan économique, qui pensent qu'il s'agissait là d'un grand progrès. Et on pourrait naturellement s'amuser à regarder les choses de plus près. Le point important, c'est, je crois, effectivement, que dans la vie sociale, la vie des collectivités humaines, la recherche d'institutions qui permettent de donner un cadre à la vie des sociétaires, c'est-à-dire des membres de la société, qui soient plus favorables à leur épanouissement personnel, ça constitue en soi un progrès. Vous voyez, donc c'est à 2 degrés. Je pense que quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui n'arrive pas à progresser sur le plan individuel, quel que soit le lieu où il vivra, il peut se trouver milliardaire dans un Émirat arabe ou à Bornéo, et c'est pas ça pour autant qui résoudra son mal d'être. En revanche, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine aptitude au bonheur, mais qui sont contrariés parce que tout simplement les réseaux dans lesquels ils sont pris dans la vie courante rendent extrêmement difficile la progression. Donc, cette notion de progrès, pour moi, sur le plan social au sens le plus large du terme, ça passe par des constructions institutionnelles, et ceci naturellement également sur le plan international. Moi, j'ai consacré une bonne partie de ma vie aux problèmes internationaux, et je crois qu'il n'y a pas de plus grand défi aujourd'hui et pour les décennies qui viennent que d'améliorer les constructions institutionnelles. Ce sera peut-être le cas dans les décennies qui viennent sur la question climatique, par exemple.
On marque une toute petite pause. Thierry de Montbrial, on vient de parler de progrès sur le plan des institutions, de l'organisation de la société. Et vous citez Victor Hugo sur une phrase qui est relativement assez peu connue, et je la cite. La France a cela d'admirable qu'elle est destinée à mourir, mais à mourir comme les dieux par la transfiguration. La France deviendra l'Europe. Une idée assez originale et que vous avez citée, vous, sous la coupole, devant l'Académie des sciences morales et politiques.
Et même devant les 5 académies, parce que c'était l'année 2001 où je présidais à la fois l'Académie des sciences morales et politiques et l'Institut, et j'avais terminé mon discours par cette phrase-là. Alors, évidemment, ça avait provoqué un choc, parce que là, on rejoint tout ce dont nous avons discuté précédemment, mais en y ajoutant la notion de temps. La notion de temps. La notion de temps est extrêmement importante. Prenez, par exemple, dans les débats politiques courants, le débat autour du souverainisme, n'est-ce pas? L'identité de la France, c'est un des sujets, d'ailleurs, dont je parle beaucoup dans ce livre. Est-ce que la France se dissout dans l'Europe? N'est-ce pas? L'un des grands reproches que les souverainistes de droite ou de gauche, d'ailleurs, adressent à l'Europe, c'est justement une dissolution d'identité. Bien. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que, à l'échelle historique, toutes les identités collectives sont appelées à se transformer en permanence. Je pense que beaucoup de Français du milieu du XVIIIe siècle, ou les gens qui ont vécu avant la Révolution française, ont dû ressentir la dite Révolution comme la fin du monde. C'était en tout cas sûrement la fin d'un monde. Et du reste, quand on lit par exemple les Mémoires d'Outre-Tombe, On voit combien Chateaubriand, qui a vécu à peu près dans la vie, a été à peu près partagé entre l'avant et l'après-révolution française, combien justement il souligne cette extraordinaire disparité, même si, comme d'autres très grands penseurs comme Tocqueville, par exemple, l'ont remarqué, par la suite, il y a beaucoup de points en commun, n'est-ce pas, entre la France de l'Ancien Régime et la France républicaine. Enfin, il n'empêche que ce sont des chocs extraordinaires. Donc, et si vous prenez la France elle-même s'est construite à partir de guerres à l'intérieur de la France, d'unification plus ou moins forcée, et même l'unification républicaine du XIXe siècle s'est faite aussi par des voies parfois extrêmement musclées, hein, par exemple pour imposer la langue française dans toutes les écoles de l'Hexagone. La notion d'hexagone elle-même, notre hexagone qui nous paraît sacré, eh bien l'hexagone n'était pas si hexagonal que ça. On oublie trop souvent qu'une ville comme Nice, par exemple, si je ne me trompe, n'a été incorporée à la France qu'en 1860, c'est-à-dire il y a même pas 150 ans, c'est-à-dire quelque chose de tout récent. Tout ça pour dire que, à l'échelle de l'histoire, tout change en permanence. Et je ne vois pas pourquoi l'État-nation tel que nous le connaissons aujourd'hui, et qui est lui-même l'aboutissement donc, d'une construction politique ou sociopolitique relativement lente, serait le point final de l'histoire de l'humanité. Je pense que avec l'accélération, car l'accélération de l'histoire est une réalité qui est absolument fulgurante. Je pense qu'avec ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, les gigantesques développements technologiques qui vont évidemment se poursuivre dans les décennies qui viennent, le mode d'organisation politique des sociétés humaines à la fin du XXIe siècle, par exemple, sera extraordinairement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et essayer d'imaginer non plus l'année 2100, mais essayer d'imaginer l'année 3000. Hein, essayer d'imaginer l'année 3000, à quoi ressemblera le monde quand on voyait la rapidité des choses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura encore notre petit hexagone qui sera gouverné avec des débats comme ceux que l'on entend entre Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy ou François Bayrou et j'en passe. Bon, il est bien évident que tout cela est appelé à changer d'une manière absolument, absolument considérable. Alors, quand on remet dans cette perspective de long terme, quand on remet dans cette perspective-là la question européenne, on est amené forcément à voir la question européenne sous un tout autre angle. Et si on se raidit sur le fait que la France n'est plus la France parce que l'État n'est plus tout à fait ce qu'il fut, parce que la langue française n'est plus parlée comme au XVIIIe siècle, et parce que nos services publics sont attaqués souvent pour de bonnes raisons d'ailleurs, si on se raidit à tout cela en disant que c'est l'identité de la France qui est en péril, on risque de passer totalement à côté de l'histoire. Et donc, comme souvent, n'est-ce pas, les grands poètes, ça c'est une chose d'ailleurs pour moi qui suis pas du tout qui n'a pas du tout cette formation initiale là, hein, moi je suis un mathématicien pur à l'origine, vous avez peut-être remarqué d'ailleurs dans certains chapitres du livre, notamment celui consacré à des plus grands mathématiciens du 20e siècle. Alors, Maurice Allais, qui fut l'un de mes maîtres en économie, mais à Laurent Schwartz, qui est un très très grand mathématicien, qui était à l'Académie des sciences d'ailleurs. Donc moi j'ai cette formation-là, ça n'est pas du tout incompatible avec l'intérêt pour la littérature ou pour la poésie, mais c'est tout de même pas tout à fait la même type de formation. Eh bien, j'ai tout de même souvent constaté que les grands artistes, et en particulier dans l'ordre de la littérature ou de la poésie, ont parfois des fulgurances et des visions, même sur des grandes questions politico-économiques, plus justes que celles des savants méticuleux. Et là, d'ailleurs, il y a aussi un thème qui m'est très cher, que je développe dans ce livre et dans bien d'autres, qui est l'importance de la notion d'intuition. N'est-ce pas, l'intuition, c'est la clé de tout. Alors, les fulgurances des artistes ou des poètes, ou d'ailleurs des mathématiciens, et tout ça, ça appartient à la même catégorie. Alors, si j'aime beaucoup cette phrase, en effet, celle de Victor Hugo, c'est parce que je crois qu'elle capte quelque chose de très très juste. Quand on situe l'avenir de la France sur le long terme, eh bien, je crois qu'en effet, on aboutit à cette conclusion-là. La France est destinée à mourir, mais à mourir comme les dieux, par la transfiguration. Le mot transfiguration est très important. La France deviendra l'Europe. Alors, bien entendu, il faut faire très attention quand vous dites ça. Une bonne partie de ma vie, je le fais à l'étranger, comme je vous disais, donc je ne suis pas constamment en milieu franco-français. Il faut faire très attention à ne pas donner l'impression, notamment à l'étranger, qu'on considère qu'il ne peut y avoir d'Europe qu'à l'image de la France. Parce que, vous comprenez, si vous êtes allemand, si vous êtes italien, ou a fortiori, si vous êtes britannique, vous êtes aussi très attaché à votre culture et vous avez une vision sensiblement différente. Mais il va falloir faire une espèce d'alliage avec tout cela. Et moi, je crois effectivement que c'est comme ça que ça se passera. Mais ça prendra du temps.
C'est ça. Un des chapitres très intéressants du livre, c'est Réforme, déclin et révolution. Il est besoin de réformes, comme vous venez de le dire, et des réformes qui sont parfois difficiles à mener et qui sont menées grâce à des hommes, pour revenir au premier point que vous évoquiez au tout début. Pour revenir sur ce que vous disiez justement, sur le fait qu'il y a besoin d'hommes qui soient à la fois des hommes d'action et de pensée, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que ces deux qualités soient réunies dans un même homme ou que dans une même équipe, se retrouvent des hommes d'action et de pensée.
Alors, d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois malheureusement, que les dispositions qui sont nécessaires pour réussir comme grand penseur, alors purement intellectuel, mettons, et les dispositions qui sont nécessaires pour bien réussir dans l'action, ne se recoupent que très partiellement. Bon, et il est très très rare, il est extrêmement rare de voir des gens qui sont à la fois de grands penseurs et de grands acteurs. C'est extrêmement rare, extrêmement rare.
Est-ce que toutes les personnes que vous citez dans le livre, je vais les dire, Jean Monnet, Louis Jox, Louise Weiss, Raymond Aron, Maurice Allais, Michel Crozier, Laurent Schwartz, Louis Armand, Jean Hulmeau, Benjamin Franklin et Jeanne d'Arc, donc des chapitres sont consacrés à chacun d'entre
eux. Ça, c'est la première partie du livre, oui.
Est-ce que toutes ces personnalités réunissent ces qualités?
D'abord, ces personnalités, c'est les circonstances qui m'ont amené à m'intéresser à eux. Sur les 10, j'en cite bien d'autres, hein, évidemment, mais sur les 10 qui ont leur chapitre, il y en a 8 que j'ai connus personnellement. Il y en a 2 que je n'ai pas connus pour des raisons qui ne vous échapperont pas. Je n'ai pas connu Jeanne d'Arc et je n'ai pas connu Benjamin Franklin, mais je m'y suis intéressé. Bon. Alors, ce qui m'a fait réunir ces personnes dans la première partie du livre, ce n'est pas qu'ils aient combiné les deux types de qualités, c'est que chacun à leur manière a été intéressé par le problème de la pensée ou de l'action, et chacun à sa manière aussi a illustré la notion d'espérance. Hein, c'est plutôt ça qui les réunit. Il y a effectivement des cas assez singuliers, si vous prenez un homme comme Benjamin Franklin, auquel j'étais amené à m'intéresser de près à cause des festivités qui ont entouré le tricentenaire de sa naissance qu'on a commémoré l'an dernier. Donc j'avais fait un grand discours sur lui, donc en étudiant de plus près, j'ai effectivement constaté avec un certain plaisir d'ailleurs que cet homme a possédé une rare combinaison de talents, puisqu'il avait à la fois des dispositions tout à fait remarquables sur le plan de l'observateur de la nature, comme observateur de la nature, comme savant, pourrait-on dire, hein, notamment où tout le monde connaît ses découvertes dans le domaine de l'électricité. Mais il était également inventeur, au sens où il avait un très grand sens pratique. Il a fait de très nombreuses inventions tout à fait pratiques. Et en même temps, il a été un homme d'affaires très avisé. Il a été un patron de journal. Il a été un publiciste redoutable. Il a été un ambassadeur tout à fait important. Et il a joué également un rôle majeur dans l'écriture des principaux textes fondateurs de la démocratie américaine. Donc, c'est une combinaison tout à fait exceptionnelle. Mais remarquez qu'en même temps qu'il n'a pas été président des États-Unis, il n'a pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours un coût quelque part. C'est pas quand vous avez des dons aussi divers, le prix à payer pour les exercer tous plus ou moins conjointement, c'est que évidemment vous n'allez pas aux extrêmes dans chacune de vos possibilités. Il y a toujours des renoncements qui sont nécessaires. Mais je crois que tous les gens que j'ai cités, le cas de Jeanne d'Arc est évidemment un cas particulièrement extraordinaire qui continue encore d'inspirer beaucoup de monde. Tous ces gens, chacun, encore une fois, dans son domaine, au travers des circonstances, a été animé par l'idée d'espérance et d'espérance collective, c'est-à-dire cette idée qu'il était possible, effectivement, de contribuer à une meilleure organisation de la vie des hommes. À quoi j'ajoute, comme ce que j'ai fait un lapsus intéressant, comme ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, que le but ultime de cette organisation pour une meilleure vie en société, c'est de permettre un meilleur épanouissement individuel. Ce qui rejoint d'ailleurs la question de la liberté.
Vous-même, Thierry de Montbriel, vous êtes surtout un homme d'enseignement et de recherche. Est-ce que, comme vous l'avez décelé chez Raymond Aron, vous aspirez aussi à une forme d'action? Est-ce que cette action vous a manqué?
Ben, vous savez, je suis un homme de j'ai pas mal écrit, beaucoup enseigné, etc. Mais je pense que je suis aussi un homme d'action, dans ce sens que j'ai créé une institution que j'ai développée entièrement, qui est une institution maintenant mondialement connue, qui est une institution qui s'appelle l'Institut français des relations internationales. Et là, croyez-moi, c'est pas une sinécure, parce que je suis à ce titre un véritable chef d'entreprise pour gérer une centaine de personnes, des réseaux dans le monde entier, trouver les finances. Sur des montants tout de même assez importants, tout cela, c'est véritablement de l'action. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je m'entends très bien avec les chefs d'entreprise en général. J'ai aucune difficulté de communication avec les chefs d'entreprise parce que, d'une certaine manière, j'en suis un. Et je le fais avec goût, avec d'ailleurs l'inconvénient typique qui rejoint ce que je vous disais en réponse à votre question précédente. Quand on est dans l'action, on passe un temps considérable à résoudre des problèmes, soit des problèmes extrêmement pratiques ou des problèmes purement humains, parce que dans l'action, très souvent, ce qui bloque, ce sont les rapports entre des gens qui s'entendent mal ou qui n'ont pas bien compris ce qu'on attendait d'eux ou qui sont insuffisamment motivés, etc., etc. Et que pendant que vous faites ça, ben, évidemment, vous n'écrivez pas un traité pur sur l'action. C'est pour ça d'ailleurs que les penseurs purs de l'action ont rarement été de grands acteurs, parce que ne serait-ce que pour écrire un grand livre, il faut pouvoir y consacrer suffisamment de temps. Bon, j'ai également été le premier directeur de ce qu'on appelle le Centre d'analyse et de prévision au Quai d'Orsay, donc je pense qu'en matière d'action, j'ai tout de même eu ma dose. Cela dit, il est tout à fait vrai que c'est probablement ça que vous aviez en tête, que je n'ai pas exercé de fonctions politiques, type ministre, ou des fonctions du même ordre sur le plan international. Mais si on regarde la notion de service, ben, si on part de l'idée, d'être utile à ses contemporains, je pense que dans ma vie telle qu'elle s'est en tout cas déroulée jusqu'ici, je pense que ces créations institutionnelles, je pense notamment à l'IFRI, sont probablement plus originales. Je l'espère avoir rendu davantage de services en faisant ce genre de choses qui n'existaient pas dans la société française et qui en plus ne correspondent pas tellement à la tradition française que si j'avais été l'un des 50 ministres qui se succèdent, dont tout le monde oublie le nom après quelques mois, vous voyez. Donc je crois qu'il y a, Dieu merci, diverses façons d'être utile à ses contemporains.
Je disais ça non pas pour rabaisser votre travail, bien au contraire, c'est parce que vous
Mais
l'aviez
c'est...
vous-même décelé
Oui.
chez Raymond Aron. C'est
Ah oui, mais
cette
Raymond Aron, c'est tout à fait différent, parce que j'ai eu la chance de connaître Raymond Aron. Je pense que Raymond Aron, lui, il avait envie d'être le conseiller un peu à l'ancienne, si vous voulez, c'est-à-dire la personne qui se trouve à côté d'un prince, c'est-à-dire je prends même dans son vocabulaire, et qui lui souffle les idées. Mais je pense que cette conception-là, qui a énormément inspiré beaucoup d'écrits et de réflexions de Raymond Aron, ne correspond plus tout à fait à la réalité d'aujourd'hui. Moi, mon expérience, qu'il s'agisse de la France ou qu'il s'agisse de bien d'autres pays que je connais un peu, à commencer par les États-Unis, c'est que ce sont beaucoup plus des équipes et ça rejoint d'ailleurs une remarque que vous faisiez vous-même tout à l'heure, c'est pas, avec des talents assez divers, mais également des institutions. Et j'en reviens toujours à la notion d'institution qui est très importante, c'est pas, c'est que aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, il y a la notion de think tank qui maintenant aujourd'hui est devenue assez populaire en France, mais qui sont de véritables instituts de recherche. Justement, l'IFRI, ce que j'essaie de faire en France, c'est quelque chose un peu comme ça, et que c'est le travail de ces institutions et non pas seulement de tel ou tel individu en particulier qui finit par percoler, et en percolant par divers canaux, ça finit par avoir un effet sur les processus de décision. Il est bien évident que, pour vous donner un exemple dans l'ordre de l'économie qui me paraît aussi assez intéressant, si vous prenez la question de l'organisation monétaire, par exemple, la notion d'indépendance des banques centrales, et puis finalement, en ce qui concerne l'Europe, la création de la Banque centrale européenne, vous avez encore beaucoup de gens qui critiquent cette institution parce qu'elle interdit par définition au gouvernement de faire des bêtises. C'est vrai que qu'est-ce qu'il y avait de plus facile, hein? Vous pouvez être certaine que si en France, il n'y avait pas la Banque centrale européenne ou si il y avait une Banque de France avant son régime d'indépendance, vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, vous auriez des gouvernements qui augmenteraient massivement la production de monnaie. Et en effet, nous aurions des taux d'inflation élevés, des dévaluations permanentes, etc. Tout ce que nous avons connu dans le passé, hein, et qui est de plus en plus insupportable, surtout à mesure que les économies deviennent de plus en plus interdépendantes. Or, si on en est arrivé à cette notion de banque centrale indépendante, à la création de la Banque centrale européenne, à l'idée de politiques monétaires qui doivent contrôler la croissance de la quantité de monnaie, etc., ce n'est pas lié à tel ou tel gouverneur de banque centrale en particulier, c'est lié à tout un cheminement scientifique à l'origine duquel vous trouvez des penseurs de l'économie, mais qui n'ont pas eux-mêmes exercé l'action. Vous voyez, il faut prendre la filière dans son ensemble.
Merci beaucoup Thierry de Montbrial. Merci pour ces trois quarts d'heure passés ensemble. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, de cet essai paru aux éditions SIRT. Il est nécessaire d'espérer pour entreprendre, penseur et bâtisseur. Et vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci d'être venu présenter ce livre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.